Chapitre 3. La démarche. Incessu patui dea. Virgile. À l'injonction de son ami, l'ingénieur ressaisit la grande pince de verre. L'heure presse, en effet, dit-il, et à peine aurai-je le temps de vous donner une idée générale de la possibilité de Adali. Mais cette idée suffira, le reste n'étant qu'une question de main-d'œuvre. Ce qu'il est bon de constater, c'est la simplicité, véritablement fabuleuse, des moyens dont je me suis servi dans ma tentative. En un mot, j'ai mis mon orgueil approuvé, ici, mon ignorance aux admirables savants qui honorent notre espèce. Voyez, l'idole a des pieds d'argent, comme une belle nuit. Leur maniérisme n'attend que le derme neigeux, le repoussé des malléoles, les ongles rosés et les veines de ceux, n'est-ce pas, de votre belle chanteuse. Seulement, s'ils semblent légers en leur démarche, ils le sont moins en réalité. Leur plénitude intérieure est réalisée par la lourde fluidité du vif argent. Cet hermétique maillot d'argent, qui les continue, est rempli du liquide métal et monte en s'étrécissant jusqu'à la naissance du mollet, de sorte que toute la pesanteur porte sur le pied même. Bref, ce sont deux petits brodequins de 50 livres et d'une mutinerie, cependant, presque enfantine. Ils paraissent d'une légèreté d'oiseau, tant le puissant électro-aimant qui les inspire et qui anime le mouvement crural se joue de ces deux perfections futures. L'armure est séparée à la taille que ce voile noir enveloppait tout à l'heure par cette ligne ployante composée d'une quantité de très courts et très fins liserons d'acier qui relie, sous les flancs, le système crural à la taille même et à l'extrémité de l'abdomen. Cette ceinture, comme vous le voyez, n'est pas circulaire. Elle est d'un ovale incliné en avant, comme la ligne inférieure d'un corset prolongé jusqu'à la pointe. Ceci donne à la taille de l'andréide, recouverte de sa chair à la fois résistante et flexible, ce plié gracieux, cette ondulation ferme, ce vague dans la démarche qui sont si séduisants chez une simple femme. Remarquez bien qu'ils sont convexes à la taille et concaves en avant du corps, ce qui, grâce à la tension de ses archales autour des reins, non seulement ne l'empêche en rien de se tenir droite, comme un svelte peuplier, mais permet tous les mouvements latéraux qui sont familiers à son modèle. Toutes les inégalités de ces liserons précieux sont calculées. Chacun d'eux subit l'impression du courant central selon les ondulations du torse vivant qui leur dictera ses inflexions personnelles d'après leurs incrustations sur le cylindre moteur. Vous serez surpris de l'identité du charme qu'elle disperse dans les attitudes. Si vous doutez que la grâce féminine tienne à si peu de choses, examinez le corset de Miss Alicia Clary et faites la différence de la démarche, de la ligne du corps,
enfin, sans ce guide artificiel.
Voyez, il y a quelques-unes de ces inégales flexibilités à toutes les articulations, surtout à celle des bras, dont les abandons infinis m'ont coûté de longues veilles. Celle du cou, remarquez-les, unies au mouvement transmis par les fils impressionnés, elles sont, je crois, d'une délicatesse de ployée irréprochable. C'est le signe féminin. Le degré d'affêterie se mesure exactement. Toute cette ossature d'ivoire n'est-elle pas d'un fini délicieux? Ce charmant squelette est retenu à l'armure par ces anneaux de cristal dans lesquels joue chaque os jusqu'au degré de la valeur du mouvement désiré. Avant de vous dire comment l'andréide se lève, supposons-la debout et immobilisée. Vous formez le vœu qu'elle marche jusqu'à une distance prévue, inscrite en elle selon la longueur de ses pas. J'ai dit qu'il vous suffira de commander à une bague l'améthyste, pour que l'étincelle occulte s'utilise en démarche. Voici, d'abord, l'exposé brut, sans commentaire, du théorème physique présenté par les figures suivantes de l'andréide. Ce sont les moyens de sa démarche, dont l'évidente possibilité devra ressortir ensuite dans la démonstration que j'ajouterai. À l'extrémité du col de chaque fémur, voici une rondelle d'or, légèrement concave, assez semblable à la cuvette d'une montre et de la dimension d'un fort dollar. Toutes deux sont imperceptiblement inclinées l'une vers l'autre et montées sur une longue tige mobile, laquelle est incluse dans l'os fémoral. Au repos, le haut de ces deux tiges dépasse les cols des fémurs d'environ 2 mm, ce qui produit la non-adhérence des deux petits disques d'or avec les cols. Les B de leur diamètre, qui viennent en A de la hanche interne de l'andréide, sont reliés par cette coulisse très concave en lamelles d'acier qui se prête à la démarche par ses entrées perpétuelles et au milieu de laquelle se trouve en ce moment, à l'état libre, ce sphéroïde de cristal. Ce globe est du poids d'environ 8 livres à cause de son centre hermétiquement empli de vif argent. À la moindre mobilité de l'andréide, il glisse incessamment en cette coulisse de l'un à l'autre des deux disques d'or. Considérez maintenant, au sommet de chaque jambe, cette petite bielle d'acier brisée en deux et dont les deux parties, s'ouvrant en dessous, jouent à l'aise dans un centre ou moyeu d'acier. Une extrémité en est solidement rivée à la scission dorsale interne de l'armure, c'est-à-dire au-dessus de la ceinture de flexibilité, l'autre
au bord antérieur interne de chaque jambe.
L'andréide étant étendu, les deux bielles se trouvent, en ce moment, pliées sur leur centre, en angle aigu, et cela dans la partie de son corps qui est divinisée en la Vénus Callipyge. Notez que le moyeu d'acier qui forme la pointe de l'angle est plus bas que les deux extrémités des bielles. Vous remarquez ces deux solides entrecroisements d'archal qui tirent le dos intérieur de l'armure depuis la hauteur des poumons et qui aboutissent, chacun, au point où la partie antérieure des bielles se soude à chaque jambe. Là, ces archales forment torsades, et celles-ci glissent en nœud coulant sur l'avant de la bielle. Lorsque l'armure est close, ces barres pectorales en acier, convexes, adaptées en matière de système costal au devant interne de l'armure, surtendent et retiennent ces deux entrecroisements, en les isolant de tous les autres appareils à travers lesquels ils passent sous les phonographes. Au fond, c'est à peu près le processus physiologique de la démarche humaine, et, pour être plus occulte en nous, ces moyens de locomotion ne diffèrent des nôtres que dans leur seule apparence à nos yeux. Qu'importe d'ailleurs, pourvu que l'andréide marche. Les entrecroisements de ces fils d'acier suffisent pour attirer le poids du torse tout d'abord un peu en avant lorsque la démarche est sollicitée. Au-dessus des angles des bielles, voici les aimants en communication, chacun avec ce fil, et voici maintenant le fil générateur de la démarche. Il est directement en relation avec l'appareil dynamo-électrique dont il n'est séparé que de 3 cm, juste l'épaisseur de l'isolateur, lorsque celui-ci s'interpose entre le courant et le fil. Cet inducteur se prolonge jusqu'à la hauteur thoracique. Là, les deux fils qui correspondent aux aimants de chaque jambe viennent attendre de lui l'impulsion du courant dynamique. Chacun la reçoit, à son tour seulement, car l'un ne s'électrise qu'en amenant l'interposition de l'isolateur de l'autre. Excepté lorsque l'andréide est étendu ou lorsque l'isolateur est interposé entre le fil générateur et les aimants, le sphéroïde de cristal est toujours en voyage, d'un disque d'or à l'autre, emprisonné dans la concavité de la coulisse qui se tend et se replie selon les mouvements des jambes. La jambe qui reçoit le cristal sur sa rondelle se tend, par conséquent, la première. Ceci posé, voici la démonstration nécessaire à l'intelligence de cet exposé. Nous supposerons que, grâce au léger mouvement drastique interne, imprimé par l'électrique invitation de l'améthyste, le sphéroïde allait se placer sur le disque de la jambe droite, selon le hasard impondérable qui les sollicite. Le disque, en sa non-adhérence, fléchit sous le poids du globe. Sa longue tige rentre dans l'os fémoral, amenant ainsi l'adhérence du disque et du col du fémur. L'extrémité basse de cette tige désisole, en fléchissant, le fil inducteur de cette jambe. Celui-ci reçoit donc l'action du générateur. Le fluide arrive à l'aimant de l'articulation crurale supérieure et en multiplie instantanément la puissance. Cet aimant attire donc avec violence la brisure centrale interne de la bielle, le moyau de fer acier. La bielle se tend, par suite, en ligne droite et à l'instant même, avec une force calculée, amenant ainsi la tension de la jambe à laquelle elle est soudée. Celle-ci se tend sur son articulation, mais elle demeurerait suspendue en l'air si le poids du corps, attiré par le nœud coulant de la dorsade des archales, qui se tend sur la partie antérieure de la bielle, ne se portait en avant vers la jambe mue. Celle-ci, sollicitée par le poids de son brodequin et de son pied, et sous la pesée du torse, pose, nécessairement, le pied sur la terre, en un pas d'environ 40 cm. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi l'andréide ne tombe pas de côté ou d'autre. Au moment précis où le pied touche terre, une émission dynamique arrive aux aimants de l'articulation d'acier fer du genou. Le genou se tend donc, à son tour, en sa rotule. Aucune brusquerie de l'ensemble de cette double tension, parce qu'elle se succède. Une fois la jambe recouverte de sa carnation, qui a toute l'élasticité de la chair, c'est le mouvement humain lui-même. Il y a brusquerie dans la détente de notre fémur, mais elle est atténuée par le relâcher du genou, qui ne se tend qu'ultérieurement, comme chez l'andréide. Faites jouer les articulations d'un squelette, elles vous sembleront brusques et automatiques. C'est la chair, encore une fois, et aussi les vêtements qui adoucissent tout cela. L'andréide, une fois le pied posé à terre, resterait donc immobile en cette situation si le fait même de cette tension du genou ne repoussait en dehors, d'environ 3 cm au-dessus de l'os fémoral, la tige de la rondelle d'or sur laquelle est demeuré le globe de cristal. La rondelle, exhaussée de la sorte et n'étant plus maintenue d'aplomb en son centre par les bords du col du fémur, fait légèrement bascule en s'élevant et à cause de sa forme inclinée vers la rondelle gauche. Le globe tombe donc sur la coulisse d'acier, y glisse vers cette rondelle et son poids, multiplié par la chute imperceptible, l'inclinaison et la vitesse, va frapper la rondelle d'or du fémur gauche et s'y installer. À peine celle-ci a-t-elle fléchi à son tour, sous le poids du sphéroïde, que l'isolateur de droite s'interpose, et que ses aimants, cessant d'être impressionnés par le courant, le moyau de la bielle de droite, plus pesant que les deux brisures, cède et retombe de lui-même en angle aigu dans son cachot d'argent, pendant que la bielle de gauche, se tendant à son tour et amenant avec une insensible douceur sur sa jambe le poids du torse, reproduit le phénomène du pas de l'andréide. Et ainsi de suite, à l'indéfini, jusqu'au nombre de pas inscrits dans le cylindre ou jusqu'à la sollicitation d'une bague. Il faut remarquer que l'isolation de l'un des genoux n'a lieu qu'après la tension du genou opposé, sans quoi la jambe isolée fléchirait trop vite. Ce qui ne se passe pas lorsque, par exemple, l'andréide se met à genoux, comme perdu en une extase mystique, pareille à celle de ces somnambules que leurs magnétiseurs font poser, cataleptiquement, ou à celle que l'on obtient des hystériques en approchant, à 10 cm de leur vertèbre cervicale, un flacon d'eau de cerise hermétiquement bouché. C'est la succession de ces flexions et de ces tensions qui donne à la démarche de l'andréide cette simplicité humaine. Quant au léger bruit incessant du cristal sur la coulisse et les rondelles, il est absolument étouffé par le charme de la carnation. Même sous l'armure, on ne l'entendrait qu'au microphone.